Bienvenue au Police Sécure, épisode spécial. Je vais essayer ça pour la première fois. En tout cas, ça fait plusieurs fois que j'essaie de le faire, mais je réussis pas. Faire un épisode solo, un peu d'inspiration, un peu comme Virginie Arsenault fait, ou certains autres podcasteurs. Je fais, où dans le fond, c'est des monologues essentiellement sur différents sujets. Donc, je vais me tenter. Si ça marche bien, je vais peut-être en faire d'autres. Si ça marche moins bien, ça va peut-être être le premier et le dernier de ceux-ci. Fait comme premier sujet que je désire aborder de cette façon-là, c'est un peu faire un récapitulatif de 2021 au niveau des événements de sécurité, les podcasts, les blogs et les livres. C'est un peu sur la base d'inspiration du dernier épisode d'Incident sur lequel justement qui aborde les livres qui ont été lus par un invité dans l'an 2021. Donc, c'est un peu sur ce principe-là que je me suis inspiré, puis plus de donner des commentaires, disons, éditoriaux sur comment j'ai vécu mon 2021, constant que c'est la première année depuis longtemps où j'ai vraiment suivi beaucoup j'ai écouté beaucoup d'événements, parce que maintenant, il y a beaucoup de virtuels. Podcast, je me suis remis à jour. Blog, la même chose, j'ai recommencé à lire. Même chose pour les livres. Dans quel cas, je le faisais moins ou je faisais beaucoup moins avant. En tout cas, du moins, en 2020, je faisais très peu, considérant l'intensité du travail qu'il y avait durant cette année. Donc, je vais séparer par différents blocs, justement pour partager mes appréciations sur chacun des morceaux, puis ce que je trouve intéressant et peut-être ce qui serait à améliorer, ou en tout cas, des observations que j'ai faites. Je vais commencer par les événements, puis bon, parce que c'était vraiment ce qui, pour moi, était le plus marquant en 2021, le nombre d'événements à lesquels j'ai assisté. J'ai assisté de tous les types, j'ai assisté en virtuel, présentiel, les événements hybrides. J'ai organisé le mien aussi. D'ailleurs, c'est peut-être un disclaimer que j'aurais dû faire, c'est que je produis un événement, je produis un podcast que vous écoutez. J'écrivais un blog, là, je le fais plus tellement, et j'ai déjà participé à la rédaction d'un livre. Donc, je suis partie prenante aussi dans tout ça. Fait que mes commentaires sont basés ou mes observations sont basées sur comment moi, j'organise mes propres choses, je produis mon propre contenu et versus peut-être ce qui serait intéressant de voir. Donc, les événements, j'ai fait vraiment le tout. Événements par des compagnies, c'est-à-dire que qu'on produit des événements commerciaux qui servent à présenter un produit, par exemple. Je n'ai sûrement assisté vraiment beaucoup de ceux-là parce qu'ils se sont, en tout cas, explosé en virtuel en 2021. Donc, c'était très intéressant. Là, il y a des événements plus ou moins forts, tout dépendant, ça dépend lesquels. J'ai assisté à des événements universitaires. Il y a plusieurs universités qui ont commencé à diffuser certaines de leurs conférences comme ça. Des trade shows, des choses un peu plus conventionnelles, puis des événements purs au sens du contenu. Fait que tous ces événements-là étaient très intéressants. Le point que c'est ma méconnaissance des différents événements, à l'exception des événements qui sont organisés par des compagnies, c'est clair que l'objectif est un objectif commercial qui est en arrière de ça. Il ne faut pas se voiler la face. Ça va bien, mais il y en a d'autres que peut-être qui sont un peu trop commercial, trade show, sans l'annoncer en tant que tel. Fait quand on le connaît pas, on le sait pas. Ça peut être un peu décevant en termes de quand on s'attend à avoir du contenu puis on n'a pas de contenu, ou le contenu est plutôt faible ou plutôt de type commercial. Ça, c'est peut-être un peu plus faible. Peut-être que ce type d'événement-là s'identifie davantage justement pour éviter cette forme de déception, parce que du moins ce que moi j'ai vécu. Maintenant, là, j'ai appris, fait que là, j'y vois plus. Là, j'en parle plus dans un contexte pour moi, pour les événements européens, puisque je suis beaucoup plus moins familier avec ceux-ci, contrairement aux événements canadiens et américains, dans lesquels, en général, la plupart, j'y connaissais déjà, lesquels j'ai participé. Donc, on a vu tout ce changement-là. C'était très intéressant. Nous aussi, toutes les vues, les événements classiques, qui étaient déjà là avant. Là, on en a plusieurs dans lesquels il y en a certains que j'ai fondés, certains dans lesquels j'ai moi-même organisé ou j'ai donné des conférences, qui ont vécu 2020 et 2021 et qui ont migré d'un environnement complètement présentiel à un environnement complètement virtuel dans certains cas. D'autres ont décidé de faire la formule hybride, tester les deux. Donc, on a vu une évolution, on a vu que certaines organisations étaient très bien outillées, ont réussi à livrer des événements de très haute qualité, même s'ils ont été pris de court puis ont dû basculer dans leur événement en virtuel. Donc, ça a quand même mis une base, puis maintenant, peut-être des attentes par rapport à ce genre de choses-là, des attentes minimales en termes d'événements. Donc, ça, c'est très intéressant, comme d'autres ont complètement raté leur volet virtuel, par exemple, où, dans le fond, il y en a qui étaient seulement virtuels, puis c'était somme toute raté. Il manquait beaucoup de colle, il manquait beaucoup d'éléments qui permettaient de rendre cet événement intéressant. Puis au-delà de tout ça, c'est très complexe, parce que dans l'événement que moi, je participe, je suis entouré d'une équipe de gens formidables qui ont réussi à faire cette transformation-là du présentiel au virtuel. Dans leur cas, c'était 100% virtuel, avec un paquet de petits éléments qui font que ça demeure intéressant. On demeure engagé comme participant dans l'événement. Donc, c'est très intéressant de voir ça, comment ça va évoluer. Fait que 2021, c'est la deuxième année qui exécute comme ça. Fait que ceux qui n'ont peut-être pas appris, ce serait peut-être le temps de voir un peu aux alentours, voir comment faire évoluer votre événement, parce que je crois que le volet virtuel va demeurer. Puis c'est l'autre aspect aussi que j'ai trouvé très intéressant, puis ça m'a personnellement permis d'accéder à des événements plus en Europe, parce que c'est beaucoup plus loin, puis c'est beaucoup plus dispendieux de s'y déplacer, que je n'aurais jamais eu l'occasion d'assister autrement, parce que l'occasion du virtuel permettait justement d'assister à ça. J'ai des événements dans lesquels j'ai appris des choses que ça faisait longtemps. Je suis pas nécessairement dans ça, mais je suis quand même assez senior dans les choses. Donc, c'est plus difficile de commencer à apprendre des choses pour moi dans les événements, puisque la plupart des choses, c'est des redites de ce qui a déjà été fait. C'est vraiment demeure très intéressant pour toute la cohorte qui monte, mais ça aussi, c'est un élément que dans certains événements, de stipuler le niveau technique ou le niveau de connaissance qu'on va y chercher serait intéressant d'être dit, justement pour éviter des déceptions. Parce qu'il m'est arrivé d'arriver dans des événements où je m'attendais à un niveau intermédiaire et élevé en termes d'intensité de contenu, puis je me suis trouvé avec un événement d'un niveau faible ou voire même jusque littéralement commercial avec aucune valeur ajoutée pour moi. On s'entend là, c'est pas une critique large, mais l'avoir su, j'aurais pas assisté. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont un intérêt ou ont besoin d'aller à ce genre d'événement-là parce qu'il y a une valeur ajoutée pour eux autres. Fait que c'est juste de savoir comment peut-être diffuser ça. C'est sûr que pour certains événements qui peuvent être les plus gros événements, le fait de cibler dans des niches très spécifiques empêche de devenir le plus gros événement parce qu'on est dans une niche très, très spécifique, mais au minimum, ça évite la déception. Sinon, ben, ça m'a permis là, pour les événements en présentiel que j'ai assisté de faire le réseautage parce que c'est très difficile de faire du réseautage en virtuel. J'ai pas vu de situations qui m'ont personnellement plu. Par contre, j'ai vu que d'autres gens se sont plu dans certains événements que j'ai vu ont réussi à faire un degré de réseautage intéressant ou de rediscuter avec les gens, mais à un moment donné, il y a comme une fatigue d'être devant son écran, donc c'est tel que tel, mais demeure que certains événements européens ou académiques européens que j'ai assistés, que j'aurais pas pu assister autrement du fait d'être juste en présentiel, donc cette avenue-là est un plus pour tout le monde. Il va falloir que, j'espère que ceux qui ont un peu plus de difficultés à faire l'adaptation à ce genre de choses-là, puissent le faire et justement qu'on puisse augmenter la diffusion de ce contenu-là. Puis c'est l'autre aspect aussi, puis ça va revenir dans les autres phases. Peut-être, en tout cas, perception. Il y a eu une explosion d'événements virtuels, une explosion de choses comme ça, dû au fait que c'est beaucoup plus facile de produire un événement virtuel, plus facile au sens où ça prend pas de logistique physique, des repas et ainsi de suite, l'hôtel et tout ça. Donc, c'est plus facile, donc moins coûteux également à faire. Donc, c'est beaucoup plus facile d'en faire régulièrement, puis d'en faire soit souvent gratuit ou à très faible coût justement pour couvrir les frais. C'est ça, il faut comprendre aussi qu'on couvre les frais, puis d'être capable d'aller chercher des conférenciers, ne pas avoir à les déplacer en avion. Donc, tout ça demeure très intéressant comme aspect. Moi, j'ai en termes de connaissances, j'ai à peu près 25% des événements que j'ai assistés, lesquels qui m'ont vraiment époustouflé. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas été époustouflé comme ça, peut-être parce que je me regardais pas à la bonne place, peut-être. C'est peut-être finalement ça. C'est peut-être moi qui devrais être plus regardant. En tout cas, bref, j'ai été poussé par plusieurs événements dans lesquels j'ai été. Ça a fait du bien d'aller dans les événements présentiels aussi, de voir ça. C'est juste, en présentiel, je trouve que les gens sont un peu négligents sur les mesures sanitaires, gestes barrières. Ça, c'est un peu dommage parce qu'en même temps, là, on a, au moment de l'enregistrement, le variant Omicron qui est là puis qui amène justement une très grande transmission. Donc, ça vient complexifier un peu les choses sur ce manque de respect des mesures sanitaires. Donc, ça va peut-être mettre des bâtons dans les roues pendant les prochaines semaines et les prochains mois pour les événements qui s'en viennent. Certains ont déjà commencé à rebasculer en virtuel. Donc, on voit déjà un élément comme ça. Ce que j'ai, dans les expériences que j'ai vues, que j'ai trouvé fascinantes, si on veut, mais que j'ai trouvé ratées, c'est tous ceux qui ont essayé de prendre des modèles de réalité virtuelle, si on veut. C'est comme un concept de, on se retrouve à se déplacer physiquement, en tout cas physiquement, virtuellement dans des salles virtuelles. Il y a comme une espèce d'allégorie qui est refaite pour ramener ces éléments-là. Personnellement, moi, je déteste. Je ne comprends pas l'utilité de ce genre de choses-là, puisque la consommation du contenu, le fait d'être là, n'est pas un élément de se rappeler que c'est... Je me déplace dans une salle où je vais dans une salle où, tu sais, avec Sophia Mémeux, c'était avec des avatars, puis c'était juste terrible. Puis personnellement, ça a été un des pires événements virtuels auxquels j'ai assisté, puisque c'était excessivement compliqué. Et ça, c'est sans compter aussi que la technique n'était pas maîtrisée, fait que clairement, les organisateurs n'avaient pas testé la plateforme suffisamment en amont. Ce que, bref, ça a été, pour moi, un fiasco assez important de faire ce genre de choses-là. Surtout que c'est un événement d'assez grande ampleur, fait que je suis un peu étonné que ce genre d'organisation-là prenne ce genre de risque-là. Mais ça, bref, le virtuel amène son lot de nouveautés. Là. Personnellement, si j'avais eu à tester ça dans un événement dans lequel j'organise, la technologie aurait été largement testée avant, justement pour assurer la maîtrise des opérateurs, s'assurer que l'expérience utilisateur soit très intéressante. C'est ça, au bout du compte, c'est l'expérience du participant qui doit être tenu en compte davantage, justement, que lui soit traité et être au centre de l'expérience, justement, pour qu'il puisse le contenu qu'il va aller chercher, le réseautage qu'il va aller chercher, et ainsi donc être capable de mettre les choses en œuvre de cette façon-là et permettre aux personnes qui partagent leur contenu, qui sont assez généreux pour exprimer et puis partager leur expérience, et ainsi de suite, puissent le faire aussi facilement. Donc, bref, ça, c'est très intéressant. En ce sens-là aussi, tu sais, c'est la première fois que j'assistais à des événements de type académique. Celui-ci est en France, celui que j'ai assisté. J'ai trouvé ça ultra intéressant. Ça m'a vraiment sorti de mes pantoufles. Et que c'est très agréable, très bien fait, très simple en termes d'événements, très simple en termes d'organisation. Parce que ça n'a pas besoin d'être très, très compliqué, très sophistiqué. Il s'agit juste de bien maîtriser les choses. Donc, celui, pour moi, a été un succès. J'en ai déjà fait référence d'ailleurs sur le podcast. En faisant la promotion de l'événement lui-même, là, mais sans rentrer dans le détail de son organisation, tout ça, mais les organisateurs ont réussi à ramener des conférences intéressantes, une technique simple mais efficace et une capacité justement d'interaction en mode hybride où les gens en classe pouvaient intervenir et les gens en virtuel pouvaient intervenir où il y avait un modérateur qui venait justement regarder ça. Bref, ça n'a pas besoin d'être compliqué, c'est très intéressant les expériences, on va voir. Moi, j'ai eu mes apprentissages aussi, puis desquels je vais répliquer dans l'événement que j'organise, dans lequel je partage avec l'équipe logistique qui m'accompagne, qui essentiellement s'occupe de la magie. Là. Donc, c'est très intéressant. J'espère qu'on n'abandonnera pas tout le volet hybride ou virtuel dépasser le retour à ce qu'on pourrait dire une normale. Je pense que cet accès à ce contenu-là a une valeur énorme. C'est sûr qu'en tout cas, bref... C'est une anecdote, là, les événements européens sont un peu top parce que s'ils commencent à 8h, heure de la France, c'est des heures un peu désagréables ici. Mais bon, bref, quand le contenu est pertinent, comme dans un des événements auxquels j'ai participé en virtuel, ça vaut la peine de justement ce petit sacrifice-là qui, avec un bon café pour réussir à passer à travers cela. Fait que ça se finit par se faire bien. Là. Sinon, ce que j'ai vu, les modèles hybrides, c'est bien. Peut-être justement être plus clair sur la nature de l'événement lui-même, justement, pour créer de frustration chez les participants. Les événements de type commerciaux qui sont faits par des fabricants de produits. En général, j'ai trouvé ça assez bien aussi, puisque on s'attend justement qu'ils vantent les mérites de leurs produits, mais en même temps, ils en ont profité pour donner du contenu pertinent en dehors de leurs produits. Donc, on en tire quand même quelque chose de très intéressant. C'est pas un pitch de vente, c'est vraiment un des cas réels, dans le fond, on apprend tout, dans lequel ils démontrent des façons d'utiliser, qui sont spécifiques avec leurs produits, mais quand même qui sont très intéressant à regarder et à savoir. Puis ça augmente la connaissance générale de ce genre de choses-là, puis voir où est rendu l'état de l'art, voir comment les outils qu'on dispose maintenant peuvent nous aider à avancer. Deuxième grand sujet, les podcasts. C'est un sujet que je trouve intéressant parce que je me suis mis à faire, ça fait un peu plus qu'un an que je pars mon podcast à moi cette fois-ci, dans lequel là c'est l'ensemble de la responsabilité est mienne, donc je suis peut-être un peu plus critique aussi, un face à moi, puis aussi voir comment je peux améliorer mon format et comment la formule peut évoluer dans le temps. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a eu des podcasts qui sont revenus en vie avec comme les chiens de garde qui avaient cessé de diffuser pour des raisons qui me sont inconnues par ailleurs, mais qui ont recommencé à diffuser. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir des gens qui recommencent à remettre du contenu francophone, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des podcasts francophones. Il y a les deux français les plus connus, Le Comptoir et Nos Limites Sécu, qui sont quand même très, très stables depuis longtemps, donc ça, c'est très bien. D'autres choses québécoises, il y en a qui en sont apparues. Il y en a un, entre autres, que j'ai trouvé c'était très intéressant, puisqu'il est apparu comme espèce de préambule commercial à une compagnie qui porte le même nom, et a fini par arrêter de diffuser. Ça fait presque un an maintenant qu'il a arrêté de diffuser, au moment où il y a eu l'envol commercial de la compagnie. Donc, ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est les gens qui organisaient ce podcast-là avaient un contenu intéressant, qui était le fun à écouter justement pour amener plus loin, voir les différents éléments. Puis là, il y a eu quelques petits soubresauts européens aussi, là, comme nos logs, Cybersécurité Holiday aussi qui sont apparus. Nolog, lui, a fait une saison, puis c'est jusqu'à présent mort, ça n'a pas bougé depuis un an. Cybersécurité Holiday, c'est intéressant parce que c'est un commercial qui aborde la cyber. Il y a une formule un peu. Il s'est imposé une formule un peu rigide, là. Ça, c'est à lui aussi de voir comment il fait ses choses, mais c'est très intéressant les sujets qu'il aborde, comment ils abordent et comment il s'est amené. Fait que d'amener de plus en plus de voix, c'est intéressant. Au Québec aussi, on a eu une personne, justement, c'est elle qui m'a inspiré le fait de faire des épisodes plus monologues, plus solo. Puis c'est d'ailleurs le fait de son dernier épisode et celui dans lequel tu m'as en fait donné un coup de pied pour exécuter celui-ci pour de vrai, enfin, en tout cas, bref, peut-être pas enfin pour vous autres, mais enfin pour moi. Moi, c'est une chose qui vient de passer ailleurs. Donc, de voir comment ça s'est né, c'est une personne qui est normalement dehors de l'arène principale, puis dans laquelle qui amène un point de vue intéressant. Donc, tous ces points de vue-là sont très, très le fun, très agréable, c'est de voir comment ça se diversifie. Puis, bon, moi, c'est sûr que mon plus gros, là, quand j'ai recommencé à écouter des podcasts en 2021, c'est plus des podcasts américains qui sont mon élément principal. Là, j'en ai plusieurs que j'écoute, là, dans lequel j'écoute dans mon entraînement le matin. Donc, j'ai tous mes journaliers qui me mettent au goût du jour sur du sens, sur quel autre. J'en ai quelques autres aussi là, qui font comme ça sur le Bitcoin. J'en fais aussi. J'écoute des podcasts sur. Au-delà de la cyber, là, les classiques, là, mais au-delà de ça, il y a des choses sur le climat géopolitique avec l'affaire, par exemple, où j'écoute d'autres éléments comme ça pour aller chercher de l'inspiration. Puis c'est un peu l'aspect intéressant qui avait été souligné dans le podcast Incidence, justement, de s'inspirer de sources ailleurs. Puis celle-ci, plus dans les livres, je vais chercher des lectures connexes plus que dans les podcasts, mais quand même dans les podcasts, de plus en plus, j'écoute des choses en dehors de la cyber parce qu'on tente à se répéter. Moi, comme les autres, j'ai reçu qui font des épisodes, des podcasts plus sur l'actualité, ce qui regroupe à peu près au moins 50% de ce que j'ai dans l'ensemble de ce que j'ai. Mais on finit toujours par parler des mêmes choses, des mêmes failles, des mêmes éléments. On apporte rarement des choses nouvelles à la conversation, peut-être des fois certains éléments, comme celui de Black Hill, par exemple, qui est très comique, parce que John Strand a une façon de présenter les choses qui est très drôle. Enfin, des fois, c'est un peu plus humoristique ou un peu plus divertissant, mais au-delà de ça, on tombe tout à peu près dans la même chose. Pour ceux qui se limitent ou font leur principal sur le volet de l'actualité. Donc ça, je trouve ça... ça fait que j'ai tendance à moins les écouter ou aller un peu ailleurs à ce moment-là, plus aller sur des choses de contenu d'analyse ou des choses qui sortent de ma zone encore là. Comme je suis pas mal senior dans ma connaissance, c'est de plus en plus difficile de trouver des podcasts qui vont être amenés ailleurs. C'est pour ça que je commençais aussi à regarder à l'extérieur de la cyber, justement, pour aller chercher des inspirations autres. D'ailleurs, sur le site du podcast, il y a une liste de tous les podcasts que j'écoute. Là. Fait que si vous cherchez des inspirations, vous voulez voir un peu où le paysage, où vous cherchez d'autres éléments, j'en ai une bonne piste là. Les blogs, la même chose. Les blogs, j'en écrivais un avant, j'ai arrêté, ça fait longtemps. C'est peut-être mon énergie d'écriture est principalement concentrée sur mon emploi. Donc, comme j'écris beaucoup dans le jour pour mon travail, bien, j'ai beaucoup moins d'énergie ou de jus de cerveau pour écrire le blog comme je faisais il y a quelques années. Donc, c'est à voir si ça me tente de retourner à un moment donné, mais bref. Le point n'est pas là. Le point, c'est que j'ai recommencé aussi à lire en 2021 beaucoup, beaucoup de blogs, ce qui m'a permis de constater qu'il y en avait beaucoup qui ont disparu avec les années. Donc, le cimetière des blogs est quand même assez immense. Je trouve ça, puis le mien en fait partie d'ailleurs. Là, je trouve ça un peu triste d'un côté de voir que tant de gens qui avaient des contenus très intéressants, très pertinents, ont arrêté de produire ce contenu-là. Puis il y en a quand même pas migré en podcast, ils ont juste littéralement disparu. Certains, c'était des blogs commerciaux, c'est-à-dire que c'est des compagnies qui les maintenaient. Puis quand les compagnies ont arrêté de voir l'intérêt de maintenir le blog, ben ils ont arrêté. Fait que je trouve ça un peu dommage parce que l'ensemble, ce qui contribue avec un blog est très important à bien des niveaux. Là. Il y en a de différents styles de blogs qui sont plus techniques, moins techniques, sur les produits, sur différents éléments. Fait que c'est un regard intéressant. Là. Je sur mon blog roll que je dans le fond que j'entretiens depuis 2005-2006, j'imagine, j'ai probablement la moitié des blogs qui sont décédés, qui ont arrêté de produire du contenu depuis déjà certains cas de belles lurettes, d'autres plus récemment pour un changement de carrière et ainsi de suite. C'est peut-être des fois un peu dommage qu'il n'y ait pas de communication. Comme les podcasts, aussi, il n'y a pas de communication qui explique, là, comme podcast, l'exemple québécois, je l'ai nommé Vigile. On n'a jamais su pourquoi s'arrêter, comme les chaînes de garde non plus. On n'a jamais su publiquement, ça n'a jamais été annoncé pourquoi du jour au lendemain ils ont arrêté de diffuser leur contenu. Fait que c'est un peu triste, mais en même temps, du podcast ou du blog en général, c'est des activités qui sont plus personnelles, je dirais plus amateurs. On n'a peut-être pas le même degré d'attente et de niveau de prestation. Puis de toute façon, même au niveau de mon podcast, c'est la même chose. Si je me considère pas un professionnel du podcast, ce qui est un peu un élément un peu étrange à dire, c'est plus un des éléments des approches qui sont plus personnelles, plus intimes, si on veut. Donc, c'est une approche un peu différente. Donc, c'est un peu plate quand ces liens-là se coupent. Puis c'est la même chose pour les podcasts. D'ailleurs, un autre temps qu'à croiser les sujets, les podcasts qui poussent la publicité, les podcasts qui, dans le fond, sont comme des entreprises commerciales qui cherchent à monétiser ça. C'est un peu... je trouve ça un peu agaçant parce que pour moi, le format podcast, comme le format blog d'ailleurs, n'est pas un format pour faire de l'argent proprement dit. C'est un format connexe qui amène soit à un partage sans autre considération ou à un élément de marketing qu'on pourrait considérer à ce moment-là pour faire valoir des sujets ou des choses comme ça. Fait que ça, moi, j'ai un peu plus de difficultés. Mais ça, bref, ça dépend des gens. Là. C'est que j'imagine on doit tous gagner notre vie. Là. Donc, comme moi, j'ai pas besoin du podcast pour gagner ma vie. J'ai un day job qui m'occupe passablement. Donc, c'est dans le fond de l'argent de mon day job que j'utilise pour financer mes activités podcast, puisque c'est l'approche que moi j'ai décidé d'utiliser. Fait que l'usage commercial, bon bref. Fait que c'est un peu moins personnel, c'est un peu plus normé. J'imagine que les choses vont continuer à évoluer, que le format va continuer à évoluer. Dernier volet, c'est les livres. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des livres en cyber et de façon générale, là, j'avais pris beaucoup de retard sur tous les livres que j'ai, tout ce que j'ai à lire. Cette année, je me suis principalement pris tout ce qui est en cyber de ce que j'ai pu trouver par rapport dans les podcasts qui parlaient de livres, de gens qui ont écrit des livres, tout ça. Puis j'ai acheté beaucoup de ces livres-là. J'ai probablement pas écouté comme il faut comment la personne a parlé de son livre. Parce qu'en général, 9 fois sur 10, un livre en cyber, je suis déçu. Parce que le livre est pas bien adapté pour mon type de lecture, pour ce que je veux chercher dans ce genre de choses-là. Donc, puis pour avoir participé à l'écriture d'un livre, si je comprends là aussi la difficulté de produire du contenu pour un livre, puis ça, c'est des défis qui sont particuliers. Que j'ai moi-même affronté pour la première fois en 2021, à quel point là je me suis frotté à ça. Fait que, je comprends la difficulté, mais en même temps, il y a peut-être une façon de je sais pas, au moins d'annoncer les couleurs du livre, un peu comme les autres que je mentionne, là, comme les événements, entre autres, là, qui sont mieux adaptés pour un certain type de clientèle. C'est peut-être là où c'est moi qui n'ai pas encore le regard assez affûté pour voir quel genre de livre est adapté pour moi et quel genre de livres ne sont pas adaptés pour moi. Fait que peut-être ce genre de choses-là, où commencer à apprendre des techniques de lecture ultra rapides, comme ma conjointe, qui est capable qu'il y ait la vitesse fulgurante un peu comme un robot, là, va passer un livre là, à une vitesse qui n'a juste aucun sens. J'aimerais ça avoir cette capacité, cette vitesse de lecture-là, mais bon, bref. Peut-être de commencer à apprendre ça comme ça, plus pour aller chercher les points qui me sont nécessaires dans les livres pour justement aller puiser, mais ça ne m'empêche pas de continuer à en acheter quand même en cyber. Un, pour encourager les auteurs en cyber, parce que c'est important d'avoir ce vecteur-là. Puis de l'autre, de pouvoir voir s'il n'y a pas des choses que je peux en tirer de ces différents livres. Cela étant dit, mes livres où j'ai beaucoup plus de gains en termes d'intérêt, de choses comme ça, puis là, je fais là un lien plus direct avec un épisode d'incidence. C'est ce qui est en philosophie, par exemple. Là, je suis en train de lire beaucoup sur des différents philosophes. J'ai des philosophes français, j'ai des vieux philosophes grecs. Je suis en train de lire des éléments comme ça. Comment gérer le changement, comment gérer les affaires comme ça. Donc, je suis en train de m'intéresser à des volets qui sont pas cyber, mais des événements, des éléments qui sont beaucoup plus humains. Comment on doit aborder l'humain, puis comment peut-être au détriment de comment on fait en cyber, on ne laisse pas l'humain assez présent dans nos décisions, dans nos actions. Donc à ce moment-là, je suis en train de prendre ce genre de livre-là, fait que je trouve ça beaucoup plus intéressant pour moi, beaucoup peut-être mieux adapté. Où je suis rendu, là, j'ai Unsupervised Learning, je crois, dans lequel j'ai fait des références à des livres qui sont ultra intéressants que j'ai commencé à lire. J'ai le podcast de Social Engineering aussi, que je trouve ça intéressant. Il amène certains livres très intéressants sur la nature humaine, la psychologie, des éléments comme ça. Donc, c'est des sujets dans lesquels je suis pas nécessairement ferré. C'est pas mon domaine principal, donc ça m'intéresse beaucoup d'apprendre, m'intéresse beaucoup d'avoir ces outils-là pour m'aider à prendre des mesures de cyber beaucoup plus efficaces, d'aider justement à la communication et de peut-être d'aller plus loin dans l'ensemble du processus cyber, justement, pour qu'on arrête d'avoir des incidents, qu'on aide les gens à prendre des décisions éclairées, justement, qu'on les guide dans ce genre de choses-là. Fait que je vais continuer à lire encore en 2022. De mon backlog, là, je me suis un peu excité dans fin 2021. J'ai à peu près une quinzaine de livres en backlog. Donc, puis j'en ai lu à peu près une dizaine autour de 2021, donc à ce moment-là. Puis, c'est pour faire un coup d'eau à l'épisode d'incidence. Je lis souvent le soir avant de me coucher, justement, pour calmer de toutes ces séquences d'écran-là, tout ce temps d'écran-là. Et ces lectures d'écran-là qui n'ont pas la même saveur, la même portée qu'on pourrait avoir sur du papier. Je lis papier pour ce type de choses-là, fait que c'est très intéressant, mais peut-être moi, en 2022, de mieux apprendre comment discerner un livre qui est adapté pour mon besoin en cyber versus les livres qui sont peut-être plus généralistes ou plus pour les gens qui commencent ou qui sont dans peut-être intermédiaires, débutants, là, dans ce moment-là, qui sont des livres évidemment très essentiels, mais qui pour moi ne sont pas tout à fait bien adaptés. Fait que c'est un premier, je pense, de tour d'horizon de ce sujet-là. Je vais voir comment ça se fait. De toute façon, on va voir si vous l'entendez, c'est parce que il a passé le test de la réécoute. Puis je vais aller voir si je vais faire d'autres podcasts comme ça à l'avenir. Je trouve le format un peu difficile pour moi. C'est un peu plus tough que d'aller avec un dialogue comme la forme que j'ai pris plus standard, mais on va voir. Peut-être continuer à explorer, aller justement dépasser les éléments dans lesquels je suis, justement pour pouvoir moi-même continuer à avancer, faire avancer mon compréhension et mon expertise et mon aventure du podcast. Donc, sur ce, je vous souhaite j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là, puis peut-être qu'il y en aura d'autres. Merci!